votre avenir. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le temps après le sommet de Newport au Pays de Galles, nous retrouvons nos invités. Marianne Perrondoise, senior analyste sur les questions de sécurité. Yves Boyer, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et professeur de relations internationales à l'École Polytechnique. Et Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Jean-Pierre Molny, on a terminé la première partie de l'émission en vous interrompant. Vous vouliez revenir sur les questions budgétaires concernant l'OTAN.
Oui, sur les questions budgétaires, il y a des choses un peu nouvelles et puis il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, classiques et qui ne datent pas d'hier. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à m'occuper de cette question il y a maintenant 30 ans, le débat au sein de l'OTAN, c'était le burden sharing, c'est-à-dire c'était le fait que les Européens ne consacraient pas assez à leur défense. Donc ça, c'est pas nouveau.
Le partage du fardeau.
C'est le partage, oui, le partage du fardeau. Quand on a fait la construction de l'Europe de la défense, le traité d'Amsterdam, il y avait eu un débat pour savoir si on devait mettre des critères de convergence au niveau de l'Union Européenne en matière de défense, et notamment, il y avait cette question de 2% du PIB en matière de défense. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une menace qui est croissante et des budgets qui baissent du fait de la crise économique. Et là, effectivement, on se retrouve devant une contradiction. Et je dirais que la contradiction, elle est très forte en France, parce que si on doit se retrouver dans les jours, les semaines qui viennent, avec des interventions en Irak ou en Libye, là, on va véritablement arriver au pied du mur sur ces questions budgétaires.
Ce qui va très probablement se produire, on en parle dans quelques instants. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur une question un peu nouvelle au cours de ce sommet de l'OTAN de début septembre. Dans son programme de renforcement de la défense de l'Europe face à une éventuelle invasion venue de l'Est adoptée durant le sommet, l'OTAN a inclus pour la première fois un volet cyberguerre. Alors l'intérêt de l'organisation pour le cyberespace, il n'est pas nouveau, mais les récents événements d'Ukraine ont donné à ce dossier une nouvelle urgence, le tournant ayant été l'annexion de la Crimée, durant laquelle l'armée russe a coupé toutes les communications électroniques entre les garnisons ukrainiennes stationnées dans la péninsule et leur centre de commandement dans le reste de l'Ukraine. Le document adopté durant le sommet étend donc au cyberespace les garanties collectives du traité, c'est-à-dire qu'une attaque contre les réseaux informatiques d'un membre sera considérée comme une attaque contre tous, au même titre que s'il s'agissait d'une agression classique. Marianne Perrondoise, un commentaire sur cette question ?
Oui, c'est effectivement très très intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à considérer l'Alliance comme une structure un peu dépassée, on va dire, par les conditions de la guerre moderne et notamment par les menaces asymétriques. Et là, on voit clairement la prise en compte des menaces cyber et le jeu qui consiste à mettre automatiquement en balance l'article 5 contre justement une cyberattaque pouvant s'exercer contre l'un des membres de l'OTAN. Donc il y a la prise en compte d'un nouveau volet par rapport à tout un éventail de menaces, on va dire, non traditionnelles que l'OTAN, effectivement, a mis du temps peut-être à pouvoir intégrer dans sa réflexion et dans tous ses concepts stratégiques.
Yves Boyer.
Oui, je crois que ce qui s'est passé en Ukraine, c'est pas de la cyberguerre, c'est de la guerre électronique offensive. C'est pas tout à fait pareil. Là, on est dans un cadre militaire avec des brouillages, bon, et ça, tout le monde le fait. La cyberguerre, c'est autre chose, c'est l'intrusion de réseaux cybernétiques très complexes, bancaires, de distribution d'électricité, etc., etc. La question, c'est de savoir, quand il y a une attaque de cette nature, d'où vient-elle? Et là, ça devient extrêmement compliqué de trouver l'origine. Deuxièmement, puisque ça touche à des domaines extrêmement sensibles, l'économie, la finance, le secteur bancaire, etc., je ne suis pas certain qu'en réalité on soit prêt à partager beaucoup de choses. D'autant plus qu'on sait très bien que la NSA a utilisé ses capacités de cyberguerre pour espionner tout le monde, y compris les alliés les plus proches des États-Unis. Donc je crois qu'il y a une volonté de réassurance, notamment à l'égard des petits pays qui n'ont peut-être pas les moyens pour faire face à des attaques. Pour le reste, je crois qu'il n'y a pas vraiment de coopération. Il peut y avoir des coopérations très ponctuelles, mais c'est au cas par cas, et je ne crois pas qu'on puisse parler vraiment d'alliance ferme et définitive.
Mais alors, ce qui s'est passé, pour poursuivre sur cette thématique, après ça on parlera de l'Afghanistan, ce qui s'est passé cet été, des attaques contre la banque américaine JP Morgan, dont on dit que peut-être ce sont les Russes qui ont cherché à se venger, hein, Ceci entre dans, alors bien sûr, des questions qui sont difficiles à prouver, mais voilà, ma question est-ce que ça peut être considéré comme une attaque directe?
Oui, mais si vous voyez, c'est une attaque directe, sauf que faut voir l'origine, qui a fait quoi. Et par exemple, en France, vous avez Thalès qui est en pointe sur ces affaires-là, qui est une espèce de quartier général où les grandes banques, par exemple, sont abonnées au réseau Thalès, qui va surveiller les attaques qui peuvent se produire contre telle ou telle grande entreprise française. Donc, les attaques, elles sont quotidiennes, mais elles peuvent venir de petits hackers qui essayent, ça peut venir de mafias, ça peut venir d'endroits multiples et difficiles. Donc de trouver une origine et de donner une origine politique à l'attaque cybernétique, il faut rester extrêmement prudent. Hein.
Jean-Pierre Mouni, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, tout à fait. La question du cyber par rapport à l'article le 5, elle est quand même pas nouvelle. C'était une question qui avait quand même été envisagée au moment de la rédaction du nouveau concept stratégique de l'OTAN en 2010, et finalement, ça avait été écarté. Parallèlement, quand même, depuis l'attaque qui avait eu lieu contre les services publics d'Estonie, il y a un centre cyber de l'OTAN qui a été mis en place à Tallinn, dans ce pays, et il y a un manuel, ce qu'on appelle un manuel de Tallinn, qui est destiné à savoir qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'attaque cyber, qui n'est pas un document officiel OTAN, mais qui a quand même été rédigé par les pays de l'OTAN. La question, parce que c'est une question difficile, c'est effectivement de savoir qui attaque, et puis surtout, quelle est la portée de l'attaque, et à quel moment une attaque cyber va-t-elle être justifiable de l'article 5, et surtout d'une riposte militaire face à une attaque cyber. Ça, c'est une question qui est complexe, qui, je crois, quand même est traitée dans le manuel de Tallinn. Et la question qui va se poser, c'est de savoir, effectivement, si la déclaration de l'OTAN va plus loin par rapport à ce qui était communément admis par les pays de l'OTAN à ce niveau-là.
Alors, on va tous se plonger dans le manuel de Tallinn. On quitte le cyberespace et les cyberguerres pour parler des défis à venir de l'OTAN. Bien sûr, l'Ukraine en est un, mais je pense en particulier à l'Afghanistan. Quelle lecture faites-vous chacun de la question afghane à 4 mois de la fin de la mission de combat des troupes de l'OTAN en Afghanistan, et malgré l'urgence de la relayer par une nouvelle mission d'assistance baptisée Soutien résolu, le 31 décembre verra le départ du dernier soldat de l'OTAN, Marianne Perrondoise. 10 années en Afghanistan. Quelle analyse faites-vous de l'action de l'OTAN en Afghanistan?
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en matière en fait de réflexion post-Afghanistan, vous avez un énorme travail au fond sur les partenariats qui méritent d'être développés ici. Effectivement, il y a eu une opération militaire qui a duré plus de 10 ans. L'OTAN a eu la délicate tâche d'élaborer une exit stratégie en essayant de s'assurer que l'armée nationale afghane avait les capacités nécessaires pour faire face.
Exit stratégie, stratégie de sortie,
une stratégie de sortie. Alors il y a toujours un accompagnement, une présence en matière de soutien, en matière de formation, mais qui se fait de plus en plus légère au fur et à mesure que les forces de sécurité afghanes sont en mesure, armée, police, d'assurer leur rôle. Et pour revenir sur cette notion de partenariat, en termes opérationnels, c'est que vous avez effectivement tout un ensemble multinational, toute une coalition de pays qui ont pu travailler avec l'OTAN pendant toutes ces années et qui, quelque part, ont envie de continuer à conserver des liens opérationnels, à continuer à s'entraîner, mais dans le cadre d'exercices. Et vous avez toute une réflexion post-Afghanistan sur l'intérêt de conserver finalement des liens avec ces pays. Je pense à l'Australie, je pense à la Nouvelle-Zélande, par exemple, je pense au Japon, qui ont finalement permis à l'Alliance de rester peut-être à un niveau significatif et qui pourrait peut-être déboucher sur des relations régulières. Et en tout cas, on a parlé des multiples statuts partenaires, membres associés, mais en tout cas, il y a de la part de ces partenaires un souci de rester en relation avec l'OTAN et de continuer à travailler dans un contexte évidemment extra-Afghanistan.
Yves Boyer, Jean-Pierre Mouni sur l'OTAN et l'Afghanistan.
Oui, Yves Boyer. Si on prend un petit peu de recul, on peut dire que c'est un échec. Pourquoi l'échec? Parce que finalement, c'était un pont trop loin. C'est-à-dire, l'OTAN a cru qu'elle pouvait régler ce type de problème. L'OTAN a été un peu trop gourmande, si je puis dire, et on voit bien que, même militairement, ça n'a pas été un succès, même si il faut rendre hommage au courage des soldats qui se sont battus là-bas. Au final, les talibans ou les néo-talibans vont venir à Kaboul, point, c'est tout. Alors, pour ce qui est des partenariats, c'est très bien, mais si vous voulez, moi, derrière les partenariats avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon, je vois quelque chose d'autre qui se profile, c'est la Chine. Alors, si les Américains veulent nous entraîner dans, non pas une confrontation, mais dans une préparation à une éventuelle durcissement à l'égard de la Chine, là, je crois que c'est la rupture de l'OTAN. L'OTAN n'est pas définie, n'a pas été créée pour gérer tous les problèmes du monde et gérer tous les problèmes américains. L'OTAN, comme l'a dit Jean-Pierre Molny, c'est l'article 5, c'est la défense territoriale de l'intégrité des 28 pays membres du traité de l'Atlantique Nord. Donc, derrière ces partenariats, en effet, le Japon était présent au sommet de Newport, la Corée du Sud. On voit bien que les Américains essayent de nous entraîner sur une pente que j'estime extrêmement dangereuse. Nous n'avons pas à être partie prenante à cette espèce de partie de bras de fer qui peut exister entre, d'une part, la Chine et, d'autre part, les États-Unis.
Jean-Pierre Molny, un commentaire, et après ça, j'aimerais bien qu'on en revienne ou on en vienne aux questions. Alors, article 5 qu'évoque à l'instant Yves Boyer. Pourtant, il y a eu la Libye, et puis, sur laquelle il va peut-être à nouveau falloir intervenir, et puis, bien évidemment, l'État islamique. Jean-Pierre Molny.
Alors, sur l'Afghanistan, tout à fait d'accord avec Yves Boyer, c'est ce que je voulais dire, c'est un échec. Ce qui est gênant, moi, qui me gêne beaucoup dans cette affaire, c'est que l'OTAN est incapable de dire que c'est un échec. Or, de 2003 à 2014, ils n'ont jamais cessé de dire qu'ils allaient régler ce conflit. Ils n'y sont jamais arrivés. Moi, je me souviens de 2008, la comprehensive approach, c'était merveilleux. On allait faire du civilo-militaire et on allait y arriver. C'était au moment du renforcement, justement, des talibans. L'armée nationale afghane, qui à ce moment-là faisait 35 000 hommes, on a réussi, en appuyant sur un bouton, à la faire monter à 230 000, ce qui pose d'ailleurs un problème de financement. Bon, une armée qui monte de 35 000 à 230 000 en 3 ans, je ne sais pas comment on fait, si vous voulez. C'est la multiplication des pains. Hein. Ça, c'est une vraie question. Alors, en plus, je dirais que c'est pas la faute de l'OTAN en tant que telle. Il faut faire un peu de, à un moment donné, d'histoire. Toutes les conflits de contre-insurrection sont des échecs. Et donc, l'Afghanistan est un échec comme les précédents conflits de contre-insurrection. Bon. La question des partenariats. Mais c'est très bien les partenariats de sécurité. Mais que ça se fasse dans l'ONU. Pourquoi dans l'OTAN? À un moment donné, il y a une confusion dans cette organisation entre ce qu'est l'article 5 et ce qui n'est pas l'article 5. Je suis tout à fait d'accord que les Australiens, les Japonais, etc. veulent travailler avec l'OTAN, parce qu'effectivement, sur les pratiques de sécurité, c'est une excellente organisation. Sauf qu'à un moment donné, l'article 5 pollue le reste. C'est-à-dire que tous ceux qui s'agglomèrent à l'OTAN par cette politique de partenariat, deviennent nécessairement pour des ennemis, pour ceux qui ne sont pas dans les partenariats.
C'est ce qui ajoute à la confusion que vous évoquiez précédemment, Jean-Pierre Molny.
Voilà, c'est ça. Je me souviens, je l'ai fait dans un séminaire, j'ai dit, il faut séparer l'OTAN en deux. On m'a répondu, vous voulez détruire l'OTAN? Mais non, je veux pas détruire l'OTAN, c'est l'inverse.
Entre pays membres et puis
voilà,
les pays partenaires.
C'est l'inverse. Ce qu'on veut, c'est de la sécurité au niveau international. C'est ça l'important. Et si on détruit de la sécurité par cette politique de partenariat de l'OTAN, eh bien, il faut le dire à un moment donné.
Marine Parent-Douas, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Jean-Pierre Molny?
C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, effectivement, entre ce que veut, ce que peut offrir l'Alliance et une demande de sécurité qui pousse certains États à rechercher le maximum de liens avec, effectivement, des partenaires crédibles. Et l'OTAN, c'est une machine à faire la guerre, mais c'est une machine à s'entraîner. C'est une boîte à outils qui met en avant un certain nombre de capacités. Et effectivement, certains pays peuvent trouver intéressant d'avoir l'occasion de diversifier leurs partenaires, leurs coopérations, en ayant l'occasion, à la faveur d'un programme de partenariat plus ou moins développé, d'avoir la liberté de participer, en quelque sorte à la carte, à des exercices et de prendre au fond ce qui les intéresse dans l'OTAN. D'où ce souci, au fond, de limiter les engagements de l'OTAN et de permettre un accès dans l'équilibre reconnu et puis le bénéfice mutuel des deux partenaires. Et c'est vrai que l'OTAN trouve une manière de crédibilité face à tous ces pays qui se pressent au portillon, si j'ose dire.
Yves Boyer.
Sauf que derrière l'OTAN, en la matière, il y a les États-Unis. Et quand on parle du partenariat avec la Nouvelle-Zélande, la Géorgie, l'Australie, etc., l'objectif, en fait, c'est on va d'abord à Washington, ces pays vont à Washington. Washington comprend qu'ils peuvent lui être utiles dans une grande politique, notamment vis-à-vis de la Chine. Et ensuite, ces pays vont à l'OTAN en disant « Mais attendez, les États-Unis sont prêts à nous accepter, donc faites un petit effort, acceptez-nous ». Washington utilise ces pays pour se rapprocher de l'OTAN dans une finalité qui n'est plus une finalité OTAN, qui est une finalité servant les intérêts nationaux américains.
Alors, il y a deux crises dont on va parler maintenant. Pour terminer, il nous reste 4 minutes. Il y a l'État islamique et la question libyenne qui devient particulièrement préoccupante. Elle est, la question libyenne aussi, le résultat de beaucoup de négligence. Jean-Pierre Molny, je me tourne vers vous. L'OTAN a-t-elle un rôle à jouer dans ces deux crises?
Je pense pas que ça passera par l'intermédiaire de l'OTAN, même si l'OTAN a été dans l'opération libyenne en 2011. On aura certainement des coalitions ad hoc à ce niveau-là qui vont se monter. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Au-delà de ça, il faut quand même là aussi se poser la question pourquoi on a 15 000 hommes aujourd'hui au sud de la Libye ou 20 000 hommes qui sont donc désignés comme des terroristes, donc qui sont des djihadistes assez extrémistes. Pourquoi on a ce qui se passe en Irak? C'est une vraie question, parce que je comprends bien la question de la menace, y compris de la menace militaire, mais à un moment donné, politiquement, c'est avant tout, je pense, aux États de la région de régler ces questions-là. Et ce qu'il faudra, c'est quand même qu'on essaie de pas être trop en avant. Et je pense que d'ailleurs, les dirigeants occidentaux l'ont en tête, cette question, ne pas être trop en avant quand il y aura une riposte militaire.
Alors, aux États de la région de régler leurs problèmes, je pense à la Libye, Yves Boyer, je me tourne vers vous. Après ça, on demandera à Marianne Perrondoise ce qu'elle en pense. Mais finalement, il y a eu l'intervention de l'OTAN, puis après ça, finito, il ne s'est plus rien passé, on a tout laissé.
Il y a eu l'intervention de l'OTAN, mais je pense également à l'intervention contre Daesh, l'État islamique. L'organe qui donne le feu vert et qui a la légitimité, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, pour l'intervention contre Daesh, il y a eu la résolution 2170 du 15 août dernier qui donne le feu vert à une intervention armée contre ces extrémistes. Donc là, il s'agit de créer une coalition internationale qui va bien au-delà de l'OTAN. L'OTAN, ça n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, c'est un tas d'États, y compris, je dois dire, la Russie, qui peut nous être extrêmement utile. Donc c'est à la communauté internationale de prendre ses responsabilités, de faire en sorte qu'il y ait une coalition militaire, alors que cette coalition militaire du côté occidental, on l'habille des oripeaux de l'OTAN pour dire l'OTAN sert à quelque chose. Très bien, mais c'est pas l'OTAN en tant que tel qui sera acteur principal.
Marianne Perrondoise.
Je rejoins tout à fait mes deux collègues. Je suis contente qu'on ait quand même prononcé avant la fin de cette émission le mot Nations Unies, parce que là, il y a effectivement un mandat, il y a très clairement une fonction de régulateur des crises internationales et une légitimité que forcément l'OTAN n'a pas par elle-même, et elle n'a pas vocation à, je dirais, prendre part à tous les conflits. Il y a certainement des dialogues entre les responsables politiques irakiens, libyens et puis le secrétaire général de l'OTAN. Mais en même temps, l'OTAN est quand même très très prudente. Et ce qui brouille peut-être un petit peu le discours général, c'est que effectivement, vous avez les États-Unis avec le président Obama qui a annoncé sa stratégie de lutte contre l'État islamiste et qui a profité du sommet de Cardiff pour cela. Et vous avez un certain nombre d'initiatives prises à titre bilatéral par un certain nombre de pays, par ailleurs membres de l'OTAN. Je pense à la France ou à la Grande-Bretagne qui pourraient envisager de livrer des armes ou de proposer des entraînements. Donc c'est ce qui finalement ajoute une certaine confusion quant au rôle de l'OTAN. Mais l'OTAN se tient bien prudemment à l'écart de ce genre de conflit et considère que l'organisation n'a pas vocation à intervenir en tant que telle.
Et pour finir cette émission sur l'OTAN, je signale que c'est la Pologne qui devrait accueillir le prochain sommet des chefs d'État de l'Alliance à Varsovie dans 2 ans. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Marianne Perrondoise, senior analyste sur les questions de sécurité. Yves Boyer, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et professeur de Relations Internationales à l'École Polytechnique. Et Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales. internationale et stratégique. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. Demain, Géopolitique sera consacrée à Gaza. À demain.